nous sommes la classe de 5e Anne et voici notre gazette du 18 avril.
Le 2 avril, le président américain Donald Trump a célébré le jour de la libération en annonçant des droits de douane massifs. Les droits de douane sont les taxes qu'on doit payer sur un produit importé de l'étranger. L'objectif de Trump, en les augmentant, est d'encourager l'achat de produits américains.
Donald Trump considère que les produits américains sont trop taxés à l'étranger. Selon ses calculs, jugés insensés par beaucoup, les États-Unis seraient perdants dans les échanges commerciaux avec d'autres pays. Mais qui va payer ces droits de douane ? Soit le magasin américain augmente ses prix pour compenser, soit l'entreprise décide d'installer son usine aux États-Unis pour éviter ces nouvelles taxes. Trump espère ainsi relocaliser les entreprises sur le sol américain, dans le but de soutenir l'emploi et l'économie. Le problème, c'est que la majorité des produits sont fabriqués avec des pièces venues de différents pays. En taxant chaque pièce, c'est finalement le consommateur américain qui payera son produit plus cher qu'avant. On s'attend à voir baisser les exportations vers les États-Unis. Les dirigeants des autres pays souhaitent négocier avec Donald Trump, mais ce dernier se réserve le droit d'augmenter ou de diminuer les droits de douane quand il le veut. Ce qui rend les négociations compliquées, car personne ne sait ce que fera Trump demain.
Au village durable Bihir, les enfants de 8 à 13 ans ont découvert début avril les métiers de la construction durable, c'est-à-dire moins gourmands en ressources et plus respectueux de la planète. Ce sont des métiers d'avenir pour l'instant en pénurie. On compte sur la nouvelle génération.
Dans le cadre de la semaine de la construction durable, des élèves de la 5e primaire à la 2e secondaire ont été invités à s'initier à différents métiers du bâtiment. 200 élèves ont participé à des ateliers pratiques. Maçons, carreleurs, mais aussi bien d'autres métiers étant à découvrir. Comme le souligne Alizé Lemaître, chargé de projet. Avec les enjeux climatiques actuels, ces professions évoluent. Elles intègrent l'énergie renouvelable, réduisent leur consommation d'eau, de gaz ou de pétrole et adoptent des matériaux plus respectueux de l'environnement. Le secteur fait face à une pénurie de main-d'œuvre, en partie parce que les jeunes le connaissent mal ou en ont une image peu valorisée. Pour changer cette perception, les étudiants du lycée La Retraite de Bruxelles ont partagé leur expérience et proposé des démonstrations.
Du 13 avril au 13 octobre se déroule la 36e exposition universelle. Elle se déroule dans la ville japonaise d'Osaka. Cette exposition, qui durera pendant 183 jours, a lieu tous les 5 ans. Elle réunit tous les pays du monde. Les 158 pays y présenteront leurs inventions et leurs projets pour l'avenir.
Une exposition universelle se déroulera à Osaka, au Japon, le 13 avril pendant 183 jours. Elle est l'occasion pour chaque pays participant de présenter ses découvertes et avancées au monde comme de nouvelles technologies ou des constructions futuristes. Elle permet aussi de réfléchir à des moyens pour améliorer la vie des gens grâce aux sciences, aux innovations et aux échanges entre les cultures. C'est un lieu de rencontre pour trouver des solutions aux grands défis mondiaux, comme le réchauffement climatique et l'augmentation de la démographie. Le thème général de l'exposition 2025 est « Concevoir la société du futur. Imaginer notre vie de demain ». Cela nous amène à réfléchir comment les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle va nous aider à vivre dans le futur. La Belgique aura son pavillon installé dans la zone « Sauver des vies ». 4 activités seront présentées, les vaccinations, le jumeau numérique, les applications de soins de santé, les prothèses intelligentes.
Aujourd'hui, nous accueillons sur Radio Alma une personne exceptionnelle. Elle se nomme Elise Goebbele. Elle est cantatrice et a déjà interprété de nombreuses œuvres. Cette jeune soprano a commencé le chant à l'Académie de musique d'Anderlecht.
Elle obtient une licence en musicologie à l'ULB. En 2006, elle est lauréate d'un master à la chapelle musicale Reine Elisabeth. Elle obtient au Conservatoire Royal de Bruxelles ses diplômes supérieurs de chant avec grande distinction. Aujourd'hui, elle est professeure à l'IMEP à Namur.
Chantiez-vous quand vous étiez enfant ? Avez-vous toujours rêvé d'être chanteuse ? Alors oui, je chantais quand j'étais enfant. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était institutrice et qui m'apprenait pas mal de choses. Notamment, quand j'avais 2 ans, je chantais la truite de Schubert en français, dans une traduction française. Donc c'est la première chose que j'ai chantée. J'ai tout de suite été mise dans un bain de musique assez important. Par contre, je rêvais pas d'être chanteuse quand j'étais enfant. C'est plutôt venu à l'adolescence. C'est-à-dire que quand j'ai commencé le chant classique vers 14 ans, un peu par hasard, je dois bien dire. Enfin, je faisais de la chorale, mais vraiment, le chant soliste, c'était un peu par hasard. Ma maman m'avait dit, tiens, tu chantais quand t'étais petite, t'irais bien faire un stage pendant l'été. J'ai dit, tiens, pourquoi pas. Et voilà. Et ça, par contre, une fois que j'ai commencé le chant, je savais que je chanterais. Alors, je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, une vie de chanteuse et ce que ce serait. Par contre, je savais à ce moment-là que le chant ferait partie de ma vie pour toujours.
À quel âge avez-vous commencé votre carrière?
Alors, ma carrière vraiment de chanteuse en plusieurs parties. Donc, j'ai commencé à l'Académie de musique et dès que j'avais 16-17 ans, j'ai eu des petits solos avec la chorale de l'école, avec la chorale paroissiale à l'église, pour les concerts de Noël et des choses comme ça. Et puis, je suis rentrée au conservatoire et là aussi, j'ai commencé à avoir des petits concerts, mais mon premier vrai gros contrat, c'était pendant l'été 98.
Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?
Je sais pas trop si c'est moi qui ai choisi ce métier ou si c'est ce métier qui m'a choisi. Depuis le moment où j'avais décidé de chanter, je me suis un peu laissée porter par ce qui m'arrivait et ce qui se passait. Et donc, j'ai eu la chance de rencontrer des chefs d'orchestre et des pianistes qui aimaient bien ma voix, qui m'ont fait travailler, qui m'ont donné des solos, de travailler avec l'Opéra Studio à La Monnaie pour pouvoir commencer un début de carrière. Et puis après, de choisir de continuer aussi avec l'enseignement du chant pour continuer avec les autres générations et donner aussi à d'autres l'envie de chanter et de faire ça.
Comment avez-vous fait pour devenir professionnelle ? Avez-vous pris des cours de chant ?
Alors oui, donc j'ai pris des cours de chant, beaucoup. J'ai commencé par des cours privés parce que à ce moment-là, à l'Académie de musique, on pouvait pas commencer le chant avant 16 ans. Maintenant, c'est 9 ans, mais avant, c'était 16 ans. Et donc, j'ai pris des cours. Puis quand j'avais 16 ans, je suis rentrée à l'Académie de musique. Et puis, j'ai fait le conservatoire. Quand j'avais fini le conservatoire, je suis rentrée à l'Opéra Studio. Donc, c'est une petite structure pour les jeunes chanteurs au Théâtre Royal de la Monnaie, qui m'a aussi permis de commencer à faire des rôles et d'être suivie par des coachs et tout ça. Là, j'ai rencontré encore alors un autre professeur avec lequel j'ai aussi repris des cours privés. Et puis, je suis encore rentrée 2 ans à la chapelle musicale Reine Elisabeth pour faire un Master after Master, ça s'appelle, donc pour avoir vraiment un diplôme complémentaire. Et voilà, ça c'est mes études. Alors après, j'ai continué à prendre des cours de chant très longtemps parce que on se remet toujours en question et on doit toujours travailler. C'est pas quelque chose, un jour on se dit, ah ben c'est bon, j'y arrive, je sais le faire, je ne dois plus jamais travailler. Non, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre. La voix change avec l'âge, tout ça, donc il faut changer, il faut travailler, il faut continuer à rencontrer des gens et à se perfectionner toute la vie.
On vous a entendu chanter en français et en allemand. Chantez-vous aussi dans d'autres langues ?
Alors oui, je chante comme assez régulièrement en italien. Et alors j'ai chanté déjà dans d'autres langues. Alors j'ai chanté notamment en néerlandais. J'ai chanté en russe, j'ai chanté en polonais.
Et est-ce que vous savez parler ces langues couramment ?
Oui, j'ai oublié l'anglais. L'anglais, le néerlandais, l'allemand, l'italien, je me débrouille. Donc j'ai pris des cours, je comprends très bien, j'essaye de parler. Les autres, non, c'est uniquement de la phonétique. Donc quand on me demande de chanter quelque chose en polonais, par exemple, je vais voir une amie polonaise, elle me dit comment on prononce et elle me dit ce que ça veut dire pour que quand même j'ai une idée de ce que je raconte. Et puis je fais par imitation, en fait.
Comment faites-vous pour avoir autant de souffle quand vous chantez ?
Alors ça se travaille. C'est tout un travail de musculature. C'est un peu comme les sportifs. On utilise vraiment, on a une respiration basse, donc on respire très bas dans le ventre. La différence avec des sportifs, c'est qu'on va être beaucoup plus dans quelque chose qui est d'élasticité, parce que dès qu'on a, si on fait comme on nous dit à la gym, serre le ventre et serre les fesses pour chanter, ça marche pas. Et donc il faut être beaucoup plus dans quelque chose où on utilise le muscle, mais dans le relâchement aussi. Donc Et donc bien prendre sa respiration, apprendre aussi que la respiration ça fait partie du chant et que c'est pas quelque chose, c'est évidemment quelque chose qu'on a besoin, on doit respirer sinon on n'arrive pas au bout et on meurt, voilà, ça c'est. Mais il faut en faire quelque chose d'expressif aussi et que ça devienne quelque chose qui ne vient plus perturber le chant et que les gens finalement qui nous écoutent ne se rendent plus vraiment compte qu'on respire parce que c'était quelque chose de tellement normal que ça passe.
Ça a pris combien de temps à pouvoir pratiquer
Alors la respiration, ça prend beaucoup de temps, ça met des années à vraiment bien gérer la chose et comme on dit toujours, quand on inspire, on ouvre les côtes au-dessus aussi, puis il y a le travail du diaphragme. Au bout de 20, plus de 25 ans, pour moi, mes côtes, elles ne se referment quasiment plus, elles restent toujours ouvertes. Donc voilà. Mais ça met du temps. C'est vraiment quelque chose qui met plusieurs années. Il faut aussi attendre, finalement, on commence à vraiment travailler ça à fond après 25 ans aussi, quand la morphologie est tout à fait, qu'on grandit plus, qu'il y a vraiment plus aucun changement, du corps, quoi.
Est-ce que c'est facile de chanter aigu et fort? Savez-vous à combien de décibels vous chantez?
Alors, par rapport à la première partie, sauf quand je suis malade, comme pour l'instant, c'est pas difficile pour moi de chanter aigu et fort parce que c'est naturel. Donc, quelque part, j'ai un peu à ouvrir la bouche, à un peu respirer convenablement et je chante aigu et je peux chanter fort s'il faut. Après, il y aura toujours des filles et des voix qui chantent plus fort que moi et vice-versa, et des gens qui ont moins de voix. Donc ça dépend un peu de comment on est fait à la naissance et de ce qu'on a en magasin. Alors je ne sais pas à combien de décibels je chante, mais je pense beaucoup. Et je sais que quand je fais mes exercices dans la voiture pour m'échauffer, souvent ma montre me dit qu'il y a trop de bruit et que je dépasse les 90 décibels. Donc ça doit être quand même au-delà de ça quand c'est les aigus. Ça doit quand même être pas mal, mais je n'ai jamais mesuré. Donc je sais pas.
Quel a été l'air le plus difficile à chanter?
On parlait de la Reine de la Nuit tout à l'heure là, et en fait je pense que l'air le plus difficile pour moi c'est le premier air, donc pas celui qui monte très haut et qui est parce que là une fois qu'on a les notes c'est pas tellement difficile, mais le premier air du rôle est beaucoup plus techniquement beaucoup plus compliqué, donc ça doit être un des plus difficiles que j'ai eu à faire. Maintenant, quand on demande un truc, c'est pas très compliqué en fait. Il faut voir si je sais atteindre les notes, si j'ai les notes, si c'est quelque chose qui tombe dans ma voix. Et puis après, le reste c'est du travail. Donc rien n'est impossible. Si on a les capacités et que on prend le temps de travailler, normalement on y arrive.
Est-ce que vous êtes alto ou soprano?
Alors moi je suis soprano. Soprano lyrique coloratour, même on dit, donc coloratour parce que je monte assez haut et que je peux faire des vocalises dans l'aigu. Lyrique parce que j'ai quand même un timbre de voix pas super léger, donc voilà, c'est plutôt...
Est-ce que vous savez expliquer ce que ça veut dire alto et soprano pour les auditeurs?
Alors alto, c'est la voix plus grave. Les terminologies soprano et alto, c'est plutôt des terminologies de chant en chœur. C'est-à-dire qu'en chœur, on va avoir grosso modo quatre voix, les sopranos, les altos, les ténors et les basses. Alors après, en chant soliste, on va plutôt parler donc de soprano avec plein de sortes de sopranos. Ça va du plus aigu, le soprano vraiment léger, jusqu'au soprano grand dramatique qui est les gros sopranos avec la musique de Wagner, par exemple, ou Richard Strauss, des tout gros rôles. Plutôt qu'alto, on va plutôt appeler ça mezzo-soprano en fait. Donc ce sont des voix qui sont un peu entre les deux, qui montent quand même mais qui ont un timbre plus grave. Donc là c'est mezzo-soprano. Et alors on a les voix vraiment graves chez les femmes à l'opéra, c'est des contralto, ça s'appelle.
Vous savez chanter en contralto?
Alors non, je peux pas chanter en contralto parce que c'est des notes vraiment graves. Et je pourrais peut-être chanter les notes, mais ça sonnera jamais comme ça devrait sonner parce que j'ai pas les résonateurs, en fait, qui fonctionnent comme ça doit fonctionner pour ces notes-là.
Et qu'est-ce que c'est un résonateur?
Alors, un résonateur, c'est les endroits du corps qui vont résonner plus sur certaines fréquences de la voix. Donc, par exemple, moi, avec ma voix de soprano plus aiguë, ça va surtout être au niveau ici des pommettes, le front, l'arrière de la tête, le haut de la tête. Justement, une contralto va avoir vraiment ces résonateurs qui sont vraiment dans la voix de poitrine, qui sont vraiment beaucoup plus bas et beaucoup plus graves. Et donc, c'est aussi des, là, à ce moment-là, c'est vraiment morphologiquement parlant, en fait, que les gens sont plus aptes à faire l'un ou l'autre, en fonction aussi de la longueur des cordes vocales, puisque c'est la longueur des cordes vocales qui va dire si on chante aigu ou si on chante grave.
Chantez-vous seul le plus souvent ? Êtes-vous toujours accompagné par un orchestre ? Que préférez-vous ?
J'ai chanté seul, enfin seul, avec quelqu'un, avec un piano ou avec un orchestre le plus souvent. Depuis quelques années, j'avoue que j'aime vraiment bien chanter avec d'autres aussi. Donc en petit ensemble, on appelle ça des chœurs de chambre. Donc on est 3-4 par voix et on fait de la musique ensemble. Et ça me plaît bien parce que être toujours tout seul, entre guillemets, chanter seul, c'est très chouette, mais il y a un moment où on a envie de faire de la musique avec d'autres personnes aussi. Et alors j'ai la chance de faire des concerts avec orchestre, mais bon, le plus souvent, moi je chante avec piano ou avec orgue, parce que je fais beaucoup de musique religieuse, donc je chante quand même assez régulièrement avec orgue aussi.
Avez-vous chanté dans un chœur ?
J'ai chanté dans un chœur, oui. Bah, plutôt des chorales quand j'étais plus jeune, le chœur du conservatoire. Et puis alors de temps en temps, maintenant je m'amuse à aller faire du renfort de chœur avec des amis chefs de chœur qui me le demandent, parce que c'est amusant aussi de faire... Il n'y a aucune pression, on chante juste pour le plaisir, avec des gens sympas. Et donc c'est très gai aussi de chanter, comme je disais, avec des gens et pas tout seul. Mais je pense que... Il n'y a pas vraiment de souci, on se fatigue pas la voix en chantant en chœur plus qu'en étant soliste. C'est deux choses différentes et il faut juste, si on a envie, il faut le faire. Si on n'a pas envie, qu'on ne le fasse pas et puis voilà.
Comptez-vous encore continuer longtemps le chant ?
J'espère, oui, j'aimerais bien. J'espère franchement pouvoir encore chanter convenablement pendant 10-15 ans. Après, il faudra voir, ça je ne peux pas. Si je peux, oui. Et en espérant que voilà, mais j'espère aussi que si jamais la voix ne répond plus, si ça va moins bien, que j'arriverai aussi à m'arrêter et à trouver d'autres moyens de partager de la musique et de faire de la musique sans. J'ai pas envie que ça devienne moins bien, de moins en moins bien. Je préférerais m'arrêter avant que ça ne devienne moins bien.
Avez-vous été inspiré par quelqu'un ?
Alors vraiment inspiré par quelqu'un. Pas vraiment. Maintenant, j'ai eu la chance de rencontrer des gens très inspirants durant ma vie. Donc, par moments, ça a plus été beaucoup de rencontres et de gens qui donnent envie effectivement de travailler plus, d'aller plus loin, de se dépasser. De voilà, c'est plus des rencontres. Mais j'ai pas spécialement une personne comme ça qui, je peux dire, qui m'a vraiment inspirée.
Jouez-vous un instrument ?
Alors, j'ai fait du piano quand j'étais petite, parce qu'il y avait un piano à la maison et donc on m'a mis au piano. C'était une catastrophe parce que je ne travaillais pas et que j'aimais pas ça. Et donc, je ne peux pas dire que je joue du piano, je sais jouer juste assez pour arriver à faire du déchiffrage de mes morceaux et pour pouvoir donner cours, je me débrouille aussi. Mais je ne joue pas plus que ça. Et alors j'ai fait un peu de flûte à bec aussi à l'époque, c'était bien sympa. Mais je ne suis pas sûre que j'arriverai encore à jouer vraiment des morceaux maintenant. Donc non, je vraiment jouer d'un autre instrument, non.
Si j'ai envie de devenir chanteuse d'opéra, qu'est-ce que je dois faire ?
Alors il faut chanter. C'est la chose la plus importante. Moi, je te conseillerais d'abord d'aller peut-être dans un chœur de jeunes qui chantent. Par exemple, moi, je fais des coachings, c'est-à-dire que je donne des petits cours de chant pour les filles qui chantent à Mélopée, le mercredi après-midi au Collège Saint-Pierre. Et donc ça c'est une première chose, je pense qu'à votre âge c'est vraiment la première chose à faire. Après quelques années, si ça vous plaît vraiment bien, il faudra aller dans une académie de musique pour prendre des cours aussi. Et alors quand vous avez 18 ans, tout à coup c'est vraiment encore toujours ça que vous voulez faire, alors vous pouvez venir chez moi aussi à l'IMEP à Namur. Donc ça c'est une école supérieure des arts, c'est vraiment une école où on forme les futurs chanteurs de demain. Et donc moi je donne cours aussi là à des gens qui veulent en faire leur métier et j'essaye de les mener vers un début de carrière.
Quelle est votre actualité ?
Alors là, je sors de plusieurs concerts de Requiem de Brahms. Enfin, je devais en faire 3, j'en ai fait que 2 parce que j'étais malade. Là, dans les choses qui viennent, on a un concert des profs à l'IMEP, justement, où toute l'équipe des professeurs de chant, on fait un concert tous ensemble mardi prochain. Puis après ça, j'ai aussi, avec un chœur de l'école aussi, je vais créer une pièce de Romain Corbizier, un Ave Maria pour chœur et soprano.
Merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci d'avoir posé vos questions.
Merci de nous avoir écoutés. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle gazette. Vous pouvez réécouter notre bulletin à tout moment sur notre blog www.radioalma.eu/gazette.